can deliver. And you just keep reminding the nigga. But for some reason I can't remember. Not for nothing, not for no reason. Gotta be something keeps my heart beating. Show no weakness, not for no reason. Something's got me believing. Maintenant, le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour suivre la séquence de vaccination prévue dans votre région et prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec.
We pledge resistance.
What's up? This is Saul Williams chilling here in Montreal, here on CKUT. Peace.
We pledge alliance with those who have undergone attack for voicing opposition to the war.
Touche pas à mes droits. Le podcast juridique local.
En raison de son profil d'homme noir, ce qui constitue du profilage racial.
Il se pose la question à savoir si c'était un homme blanc qui était dans la même situation, est-ce que le traitement aurait été le même?
Touche pas à mes droits, le podcast juridique local.
On y parle de quoi?
De profilage racial.
N'attends pas, informe-toi.
On est là pour ça. Salut, salut à tous et re-bienvenue à votre podcast juridique qui traite de profilage racial, Touche pas à mes droits. Donc, bienvenue au premier épisode de l'année 2022. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir comme invité Maître Extra Junior Laguerre, qui est avocat, fiscaliste et aussi bâtonnier de Montréal. Je me présente, je m'appelle Lina, je suis votre animatrice aujourd'hui et je suis accompagnée de ma co-animatrice Dahlia. Donc aujourd'hui, notre épisode portera un peu sur le portrait de Maître Laguerre ainsi que le travail qu'il fait auprès du barreau de Montréal. On abordera bien sûr les questions de profilage racial, de racisme systémique et surtout du mandat de Maître Laguerre. Donc, comme je l'ai expliqué, Maître Laguerre, c'est un avocat fiscaliste et bâtonnier de Montréal qui a obtenu son barreau en 2007. Il a une formation en droit à l'Université Laval ainsi qu'une maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Il est impliqué dans sa communauté depuis de nombreuses années, que ce soit juridique au sein du barreau de Montréal, du barreau du Québec et d'Éducaloi. Il a également de l'expérience à la Cour du Québec, à Revenu Québec et au sein de son cabinet, la guerre fiscaliste. Donc, bienvenue, Maître Laguerre, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup. Bonjour, Lina, et bonjour, Dahlia. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir participer à votre émission. Et de côté, je suis à vous.
Merci beaucoup. Donc, on va commencer tout de suite voir un peu votre portrait, puis qu'est-ce qui vous a mené un peu à devenir avocat, à devenir bâtonnier de Montréal. Donc, on a pu lire dans une entrevue que vous aviez eu l'ambition de devenir policier quand vous étiez plus jeune. Donc, c'est ça, maintenant vous êtes avocat, vous êtes bâtonnier de Montréal, donc c'est assez différent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet intérêt-là? Et en fait, qu'est-ce qui vous a plutôt mené à l'étude du droit?
Oui, effectivement, je dis régulièrement que moi, si j'avais le choix quand j'étais plus jeune, je serais devenu policier parce que j'ai toujours été intéressé par la loi et l'ordre. Puis je suis d'origine haïtienne, puis les parents haïtiens sont très stricts avec les enfants sur l'ordre. Sont très stricts. Donc ça m'a toujours fasciné. Puis le travail policier, ça m'a toujours fasciné. Puis sachez que moi, je viens de Granby, donc je suis pas de Montréal, je viens à l'extérieur de Granby. Ça m'a toujours fasciné. Puis à Granby, il y avait pas vraiment de... C'est une petite ville tranquille. À l'époque, on était 30 000... La population était 30 000 personnes. J'étais peut-être le seul immigrant au secondaire, ainsi de suite. Il y avait vraiment un peu de problèmes en tant que tel, mais le travail policier m'a toujours intéressé. Pourquoi? Parce que c'est la loi et l'ordre. Ça m'a intéressé, puis de pouvoir protéger la population. Mm-hmm. C'est ça qui m'intéresse dans ce travail. Et si je ne suis pas devenu avocat, je suis devenu policier, je veux dire, devenir avocat, ben, écoutez, je suis allé au cégep, puis quand j'étais en deuxième année cégep, troisième session, c'est là qu'on doit décider vraiment un peu de notre choix de carrière. Donc, je suis allé voir l'orienteur. Je lui ai dit, bon, voici, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit que j'étais peut-être intéressé à être policier. Il me dit, OK, parfait. Après ça, puis j'étais faire des tests de la GRC, mais j'étais plus ou moins intéressé. Mm-hmm. Je ne sais pas pourquoi, mais j'étais plus ou moins Puis, à un certain point, on a eu dans notre cours, le professeur, je ne me rappelle plus quel cours c'était, il a invité un avocat à venir parler. Puis moi, j'étais dans le cours, j'écoutais l'avocat, puis je trouvais ça intéressant. Puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ben, je vais m'inscrire en droit. Puis, quelques temps après, je me suis inscrit en droit. Puis, je me suis inscrit en droit à l'Université de Sherbrooke, qui était vraiment plus proche de Granby, là, donc c'est ça. Après ça, donc, c'est ça. Puis, j'ai été accepté à l'Université de Sherbrooke. Et ainsi de suite. J'ai commencé mon droit à l'Université de Sherbrooke. Sachez que, je ne sais pas si vous savez, c'est Dalia qui vient de l'Université de Sherbrooke, c'est ça? Dalia, c'est ça? Non, à Ottawa. Ah, c'est moi. Donc, moi, quand j'ai commencé l'université, sachez que, bon, c'est la première fois que je quittais la maison familiale. Disons que j'ai fait la fête pas mal.
Ah ouais?
pas mal. Et mes deux premières années, j'ai réussi. Mais c'était pas vraiment optimal, disons là. Donc, je me suis dit, il fallait que je change quelque chose. Et j'ai demandé d'être transféré à l'Université Laval. Et la majorité de mes cours ont été, convertis.
Crédités.
C'est le bon terme. Crédités. Bon, merci beaucoup, c'est le bon terme, crédité. Et j'ai poursuivi mon cheminement à l'Université Laval. Et j'ai fait, au lieu de faire mon université, mon bac en droit en 3 ans, j'ai fait en 4 ans à l'Université Laval. Et donc, c'est ça. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mes études en droit, c'est la poursuite. Puis quand j'étais à l'Université Laval, j'ai pris, parce que en compte, c'est rendu le temps de pouvoir prendre des cours à option. Bon, on regarde les cours, bon, c'est pas trop grand, on prend tous les étudiants, bon, comme moi, je jouais droit international, parce que droit international, c'est tout. Tous les étudiants sont intéressés par le droit, par l'international. Et du coup, j'ai dit, bon, il y avait un cours de fiscalité 1. Je vais essayer le cours de fiscalité 1. Pourquoi? J'ai rien à perdre avec eux, essayer le cours de fiscalité 1. Je m'inscris en fiscalité 1. Je trouve ça vraiment intéressant, mon professeur, c'est André Laroux. Fiscalité, ça a l'air très, très plate dans la vie. Parce que les avocats, nous, on aime parler, on aime les mots, on aime écrire. La fiscalité, c'est comme des lettres transformées en chiffres.
Ouais.
C'est pas pour les avocats, c'est pas quelque chose qu'on aime vraiment. Les avocats, en général, ne trippent pas beaucoup sur la fiscalité. Mais j'ai beaucoup aimé le cours. Pourquoi? Parce que le prof était vraiment, vraiment intéressant, André Laroux. Il nous expliquait des trucs. Il se gigotait en avant. Moi, je le trouvais fascinant. Puis, j'ai commencé à lire mes jurisprudences. Je lisais la jurisprudence sur, par exemple, la résidence. Je trouvais ça fort intéressant. Puis c'est le cours avec le cours de droit international que j'aimais le plus. Je passais des heures à lire ma jurisprudence. Je comprenais. J'étais pas très, très bon en fiscalité, disons-vous. Mais j'aimais beaucoup ça. J'allais voir souvent à son bureau pour dire, mettre la roue, expliquez-moi tel concept. Bon, après fiscalité 1, bon, venait l'autre session. J'ai pris fiscalité 2. Et j'allais encore le voir. C'est lui qui m'a dit, quand Junior, je pense que tu devrais peut-être t'inscrire en fiscalité. Ça pourrait t'intéresser. Ben, quand il m'a dit ça, moi, dans ma tête, je dis, es-tu malade? Excusez-moi l'expression. Jamais je m'inscris en fiscalité. Et bon. Ceci étant, j'ai terminé mon bac, je me suis inscrit au barreau, j'ai fait à Québec. Et ben pendant que je suis au barreau, ça fait son cours, qui a fait son chemin, et je me suis inscrit en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. J'ai été accepté, j'ai fait maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Après cela, je suis venu à Montréal. C'est tout.
C'est vraiment intéressant.
C'est vraiment C'est de la chance, en tout cas. Je suis mon instinct.
Ouais, c'est un peu un concours de circonstances là, qui a fait en sorte que c'est la fiscalité finalement qui vous a intéressé.
Exactement.
Puis est-ce que vous direz que c'est un domaine assez niché? Donc, est-ce qu'il y a beaucoup d'avocats qui pratiquent là-dedans ou pas nécessairement?
Alors, écoutez, je n'ai pas le nom parce qu'il y a une association qui s'appelle l'Association Planification Fiscale et Financière qui est notre association, en parenthèse, pour les fiscalistes. J'ai pas le nombre exact des gens qui pratiquent, mais je vous dirais, il y a très peu d'avocats qui aiment la fiscalité. On n'est pas beaucoup dans l'association, mais la fiscalité, je vous dirais, quand on le garde de loin, ça a l'air très niché, mais quand on commence à étudier la fiscalité, on se rend compte que presque tout est fiscal, dans le sens que la fiscalité, quand on parle en droit international, ben, il y a la fiscalité internationale. Quelqu'un aime le droit municipal, il y a la fiscalité municipale. Je sais pas, tout vraiment, la fiscalité touche toutes les facettes, les crédits d'impôt pour les familles, ça coûte les droits de la famille. La fiscalité vraiment touche toutes les facettes de la société parce que c'est le gouvernement qui dit voici comment qu'on va collecter de l'argent, voici comment qu'on va permettre à des gens d'avoir un peu plus de sous avec des crédits d'impôt remboursables, dépendant de la situation. Donc la fiscalité, quand on rentre, c'est très très large. Mais quand on regarde de loin, ça a l'air très très précis. Mais quand, une fois qu'on commence la fiscalité, on pourrait lire à un plan finir la fiscalité.
Mais c'est vraiment super intéressant, puis justement, ça mène à parler un peu de cette autre facette. Au début, j'ai dit que vous étiez justement avocat en droit fiscal, mais aussi bâtonnier du barreau de Montréal. Donc, c'est un peu comme deux de vos chapeaux. Puis en fait, le barreau de Montréal, je tiens juste à mentionner qu'il a été fondé en 1849, puis il regroupe plus de 15 500 avocats. Il a pour mission, entre autres, de veiller à la protection du public et de soutenir ses membres. Donc, est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu plus en détail de la mission du barreau ainsi que de votre rôle en tant que bâtonnier. Puis en fait, peut-être expliquer au public, c'est quoi un bâtonnier? Qu'est-ce que ça fait un bâtonnier?
Un bâtonnier, ben écoutez, moi quand je suis arrivé, ben je vais vous expliquer le barreau, mais quand je suis arrivé ici, moi à Montréal, comme je dis, je suis pas de Montréal, donc je devais me trouver des amis. Donc j'ai commencé à m'impliquer, je me dis la seule façon qu'on s'implique, je me suis impliqué dans le Jeune Barreau de Montréal, comme bénévole dans un comité, et ainsi de suite, à un certain point, donc j'aimais beaucoup ça, c'est l'association qui représente les avocats de 10 ans et moins de pratique du district de Montréal, c'est le Jeune Barreau de Montréal. Et j'aimais beaucoup ça, donc bon, au fur et à mesure, après 2-3 ans d'implication, j'ai fait campagne de devenir membre du conseil, c'est un vote universel, et après, je pense qu'il y a 6000 membres, ou 5000 quelques membres, ou 6000 membres du Jeune Barreau. Les gens ont fait campagne, comme c'est comme une élection, puis les gens votent pour vous. Donc, j'ai été élu sur le conseil. J'ai siégé sur le conseil. Ainsi de suite, j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir président, le Jeune Barreau. Une fois qu'on devient président du Jeune Barreau, quand on devient, à la fin de notre mandat, on devient président sortant. Le président sortant, souvent, devient secrétaire du Barreau de Montréal. Donc, j'étais, après la fin de mandat, je suis devenu secrétaire du Barreau de Montréal. J'ai siégé sur le conseil du Barreau de Montréal. Après mon mandat, c'est un an, j'ai fait des élections, je suis devenu membre du conseil de Bois-Montréal, c'est 2 ans chaque membre du conseil. Mais le secrétaire, c'est dans l'exécutif, il y a 4 personnes, c'est 1 an, mais les membres du conseil, c'est 2 ans. Il y a 13 membres du conseil de Bois-Montréal en tout. Donc, le barreau de Montréal, pour revenir à ça, avant tout, je vais vous expliquer le barreau du barreau du Québec. Au Québec, pour la province du Québec, il y a ce qu'on appelle le barreau du Québec. Le barreau du Québec, c'est l'ordre professionnel. Sa mission de l'ordre professionnel, c'est la protection du public. La province est divisée en 15 districts. Et Montréal est une des districts. Par exemple, Laval, c'est un district. Longueuil, c'est un district. Donc, en 15 districts, Montréal, c'est un des districts du barreau. La particularité de Montréal, c'est qu'on a près de 16 000 avocats, comme vous avez dit. Et on représente 55% des membres du barreau du Québec. On a quand même un corps vraiment important, là, le barreau de Montréal. Donc, c'est ça le barreau de Montréal. La mission de protection du public, qu'est-ce que ça fait tous les jours? Par exemple, pour les avocats, dans le fond, il y a 2 volets, je peux vous dire. Par exemple, pour les avocats, on a divers comités au barreau de Montréal pour permettre aux avocats de s'impliquer. Par exemple, des avocats qui pratiquent à la Cour supérieure ou à la Cour du Québec. Il y a des comités de liaison avec la magistrature. Donc, disons qu'un avocat va à la cour et à certaines problématiques, mais tu peux t'impliquer dans le comité, puis les juges sont là dans le comité, tu peux faire part directement de tes revendications, et les juges, inversement, peuvent dire aux avocats, ben voici, nous, on n'est pas satisfait de tel aspect. C'est des comités liaisons avec la magistrature. Il y en a différents cours supérieurs, cours d'appel, cours du Québec, ainsi de suite. On a beaucoup de comités de liaison. Il y a 40 comités en tout au Montréal. On a aussi des comités plus spécifiques, par exemple, avocats dans la profession, la diversité ethnoculturelle, LGBTQ. Donc, c'est des comités qui sont plus spécifiques, qui font, ben, vous avez comme par exemple ethnoculturelle, ça regroupe des avocats qui disent qu'ils sont membres de diversité ethnoculturelle, et on étudie des sujets qui concernent pas les membres, mais les membres du Barreau de Montréal qui sont membres de la communauté ethnoculturelle, avocats dans leur profession également, et LGBTQ également. Donc, c'est des comités spécifiques. Et d'autres choses qu'on fait, on fait aussi des formations pour les avocats. On offre diverses formations sur beaucoup de sujets aux avocats pour qu'ils puissent améliorer leur pratique. C'est un petit volet. Un autre volet qui peut être intéressant pour le public, parce que protection du public. Par exemple, on fait ce qu'on appelle un salon visé-droit au printemps. Salon visé-droit, c'est que ça réunit des exposants. On fait habituellement, avant la COVID, on amenait les écoles et on faisait des jeux avec les étudiants sur scène. Par exemple, il y avait de l'improvisation, des jeux questionnaires, ainsi de suite, pour essayer d'éduquer le public sur le droit. Dans le fond, le droit les concerne. On est des avocats, mais ça les concerne. Puis souvent, je pense qu'il y a quand même un problème d'éducation juridique. Et aussi, on offrait des services juridiques, des consultations juridiques qui étaient les gens qui avaient des problèmes juridiques, ils venaient au salon visé droit. Il y avait des avocats qui étaient bénévoles en personne et les gens amenaient leurs problèmes, puis les avocats leur donnaient des conseils juridiques sur place. Ça, c'était un peu salon visé droit pour les ventes. Et un autre volet qu'on fait également, il y a deux concours intéressants pour les jeunes. Il y a un concours qui est à bonne mine pour les jeunes du primaire au secondaire. C'est la rédaction sur un thème juridique. Donc, on demande aux écoles de participer et les jeunes du primaire au secondaire peuvent rédiger un sujet sur un thème juridique, faire une rédaction sur un thème juridique et transmettre la rédaction au barreau de Montréal. Et des avocats bénévoles lisent tous les textes envoyés et à la fin, il y a un gagnant. C'est juste à bonne mine. Et on a un autre concours qui s'appelle le concours à trois, qui c'est également pour ça, c'est pour les jeunes du cégep, mais là, c'est vraiment un débat à trois. Donc, des étudiants de deux écoles qui s'affrontent sur un thème juridique. L'objectif dans tout ça, c'est d'éduquer le public sur les sujets d'ordre juridique. C'est un peu ce qu'on fait. Mm-hmm. Est-ce que ça vous explique un peu? Aussi, un autre volet qui est important, c'est la protection du public, c'est qu'on fait aussi la pratique illégale. La pratique illégale, c'est les faux avocats, mm-hmm. en parenthèse, les faux avocats qui disent qu'ils sont avocats et qui rencontrent des gens, qui leur demandent de l'argent et qui ne donnent pas de service juridique. Ils ne sont pas inscrits au barreau. Le barreau de Montréal poursuit ces gens-là.
Mm-hmm, absolument. Puis, à titre de bâtonnier, c'est quoi exactement que le bâtonnier ou la bâtonnière du barreau de Montréal a comme rôle?
Oui, c'est ça. Le bâtonnier, c'est le porte-parole du barreau. Donc, c'est le leader du conseil d'administration, mm-hmm. les 13 personnes. Donc, c'est sûr que le bâtonnier, quand il arrive en fonction, on arrive tous avec des sujets qui nous interpellent plus. Et ces sujets-là risquent d'être à l'agenda pendant l'année. Et on ajoute notre savoir un peu au barreau mm-hmm. avec les sujets qui nous intéressent et qui peuvent être pertinents pour les justiciables, soit les avocats ou les membres du public.
Mais c'est vraiment intéressant parce que justement, vous avez mentionné lors de votre nomination à titre de bâtonnier, d'ailleurs félicitations, que vous alliez, lors de votre mandat, travailler sur trois chantiers principaux. Donc, quand vous dites « chacun ajoute un peu sa saveur », vous avez mentionné vouloir élaborer et mettre en œuvre un plan pour favoriser l'inclusion et promouvoir la diversité au sein de la communauté juridique de Montréal. Également, analyser les enjeux de la gouvernance et élaborer un plan stratégique pour donner une mission plus claire au barreau de Montréal et finalement définir un cadre pour guider le barreau de Montréal dans sa prise de position publique et stratégique. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ces trois points-là, puis comment est-ce qu'on peut faire des liens entre ceux-ci et la lutte contre le racisme systémique, le racisme et le profilage racial?
C'est parti. Donc, je vais vous expliquer les trois sujets, bien entendu. Par exemple, on peut commencer par le premier, qui est le positionnement. Le positionnement, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que je trouve que le barreau de Montréal a une voix forte, a beaucoup d'influence. Comme je vous dis, on représente 55% des avocats du Québec. Beaucoup, quand il y a beaucoup de sujets d'actualité, on ne peut pas se le cacher, il y a beaucoup de discussions à Montréal. Je ne sais pas qu'il n'y en a pas dans les autres barreaux, mais il y a beaucoup à Montréal. Et je trouvais que c'était important de pouvoir que le membre de Montréal puisse s'exprimer sur des sujets d'ordre juridique et social quand c'est nécessaire. Bien entendu, notre rôle, ce n'est pas un parti d'opposition, bien entendu. Mais par contre, je pense que ça pourrait être intéressant de faire valoir le point de vue du barreau. Et c'est pour ça qu'on a créé un comité qui s'appelle Comité Positionnement et qui, son rôle, c'est de faire en sorte d'alimenter le conseil d'administration sur des sujets qui peuvent être qu'on trouve pertinent. Par exemple, on a pris position sur la loi 96 du gouvernement du Québec, là, la loi sur la Charte de la langue française. Bon, deuxième élément, par exemple, c'est la diversité et l'inclusion. Bon, encore à Montréal, on s'entend que, si je pense que j'avais vu une étude sur le site de la Ville de Montréal qui disait que le tiers des, des membres de la communauté montréalaise venaient de l'immigration. Donc, Montréal, c'est une ville très diversifiée. Et notre profession également est beaucoup plus diversifiée que les autres districts, disons-le comme ça. Mm-hmm. Et je trouvais intéressant, souvent j'entends parler souvent des jeunes qui disent que tout ça difficile l'accès à la profession. Donc, c'est pas évident parce que, sauf que, tu sais, on a pas. Est-ce qu'on a la même chance que les autres? Est-ce qu'on est jugé de la même façon que les autres? Est-ce qu'on peut avoir accès aux mêmes promotions que les autres? Mm-hmm. Par exemple, est-ce qu'on peut accéder à la magistrature? Donc, parce que c'est des sujets qui reviennent. Donc, j'ai mis en place un comité qui son rôle d'étudier ce sujet et de pouvoir faire des recommandations au conseil sur comment améliorer la diversité et l'inclusion dans le barreau de Montréal. Donc, je pense aux membres et également à la magistrature et également, dans le fond, tout ce qui est diversifié. Donc, je trouvais que c'est intéressant. C'est un sujet trop important pour ne pas en parler. Mm-hmm. Donc, je trouvais que... Donc, on a un comité qui se penche là-dessus présentement. L'autre sujet, c'est la planification stratégique. Une planification stratégique... Je ne sais pas, est-ce que vous savez c'est quoi une planification stratégique?
Non, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Non, c'est ça. Une planification stratégique, par exemple, le barreau, comme je le dis, fait diverses activités, la formation, fait des concours oratoires, on fait la pratique illégale, ainsi de suite. C'est les diverses activités du barreau. Mais si on regarde plus de façon macro, avant tout, il faut regarder c'est quoi la mission du barreau, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les objectifs. La planification stratégique, c'est ça. C'est une vision très macro. On est ce qu'on a fait, on a sondé les membres, on a sondé le conseil, on a parlé à divers amis du barreau de Montréal pour leur dire, voici ce qu'on fait, qu'est-ce que vous pensez de nous? Est-ce que vous pensez qu'on fait les choses de la bonne façon? Est-ce qu'on devrait s'améliorer? C'est ça une planification stratégique. Donc, c'est dire, regardez, on prend une photo maintenant, on regarde ce qu'on fait, on dit, bien, est-ce qu'on a des objectifs pour les 3-4 prochaines années? C'est ça. Donc, avec un plan, fait qu'on a pratiquement terminé la planification stratégique et on a vu nos forces, nos faiblesses, ainsi de suite. Et là, on est en train de regarder pour voir, bien, c'est pas encore adopté au conseil, mais c'est pas terminé. Puis voir, une fois qu'on va adopter la planification stratégique, c'est la mission, les valeurs, les objectifs généraux. Après ça, on va le détailler en plan d'action détaillé sur toutes les activités du bord de Montréal. On va regarder toutes les activités, on va dire, bon, est-ce que ce qu'on fait comme activité, ça correspond à la planification stratégique qu'on a fait? Puis on va essayer d'améliorer le tout pour que ça s'imbrique bien ensemble. Est-ce que ça s'équilibre bien?
Oui, absolument. Donc c'est ça, c'est vraiment de donner, de voir un peu qu'est-ce qu'on veut faire dans l'avenir, qu'est-ce qu'on veut améliorer, qu'est-ce qu'on veut changer.
C'est ça. De fond, c'est ça, mais aussi, est-ce qu'il y a un lien avec le profilage racial? C'est ça que m'a posé comme lien. Il n'y a pas de lien direct avec le profilage racial dans les projets que j'ai. Par contre, mon objectif, c'est vraiment plus de regarder avec les membres du barreau, de voir comment qu'on peut améliorer l'inclusion. Ça touche vraiment pas l'inclusion, parce que le profilage racial, c'est un autre sujet complètement. Mais moi, par contre, ce sujet-là, améliorer la diversité et l'inclusion, je trouve ça important pour m'assurer que les membres qui sont la diversité trouvent leur place dans le milieu juridique, parce qu'on a notre place dans le milieu juridique, on en fait partie, et comment qu'on peut faire pour qu'ils puissent se sentir membres à part entière, qu'ils puissent se sentir bienvenus. C'est vraiment ça mon cheval de bataille, je vous dirais. Et également, comment qu'on peut faire des liens avec d'autres intervenants, ça peut être d'autres personnes, par exemple la Ville de Montréal ou les services de police. Comment on peut faire des liens pour s'assurer que nos membres se sentent bien, pour s'assurer que le privilège des avocats sont respectés. Et c'est tout ce lien-là, mais il n'y a pas de lien direct avec avec le profilage racial.
Mm-hmm. OK. Puis, en fait, c'est ça, je trouve ça très intéressant aussi. Vous avez mentionné au début qu'environ le tiers des gens sont issus de l'immigration à Montréal. Puis, justement, ça, c'est un peu ce qui vous a, je dirais, peut-être surpris du fait que vous soyez la première personne noire à occuper le poste. Puis, dans une entrevue, vous dites que vous comprenez pas trop pourquoi la nouvelle a fait autant les manchettes avec une ville aussi diversifiée que Montréal. Est-ce que vous sentez que ça aurait pu être quelque chose qui aurait dû arriver plus tôt, ou comment est-ce que vous vivez, en fait, le fait d'avoir ce titre de première personne noire à avoir obtenu cette nomination?
Effectivement, moi, ça m'a toujours, ça m'a surpris parce que Montréal, c'est une ville qui a quand même beaucoup de migrants, d'immigrants, des gens issus de la diversité, et le barreau de Montréal également. Moi, ça m'a surpris parce que la question que je me posais, je me dis, parce que moi, mon parcours, c'est vraiment simple. Je me suis impliqué dans le jeune barreau, je m'amusais, j'avais du plaisir d'être. Puis, j'ai jamais eu beaucoup de. Parce que vous êtes jeune, vous savez comment sont les jeunes. Ben je me considère encore comme jeune. Je suis plus jeune, mais
Oui, bien sûr. Ben oui, ben oui. Jeune dame.
jeune dame. Puis, tu sais, les gens avec qui je m'impliquais, moi, j'ai jamais senti qu'ils me regardaient par rapport à ma couleur. J'ai senti qu'ils me voyaient comme extra junior. Puis, je me suis impliqué, puis j'ai jamais senti qu'ils avaient des difficultés pour progresser dans l'organisation du jeune barreau, également au barreau. Donc, j'ai jamais senti ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais senti ça. Par contre, je pense que les gens issus de l'adversité, ils sont toujours un peu. Moi, parce que je viens de Granby, je viens d'une ville qui avait à l'époque 95% de population blanc francophone. Donc, ça m'a jamais intimidé d'être dans un rôle avec des gens qui sont des Québécois, dans le sens que
Différent de moi, ouais.
c'est ça parce que j'ai toujours baigné dans. J'ai toujours baigné dans ça. Donc, pour moi, c'était tout à fait normal. Mais par contre, je me rappelle quand je suis devenu président de jeune barreau, quelqu'un m'a dit, on est vraiment fiers parce que ça m'a surpris. Je me suis dit, ben, tu peux devenir toi aussi. Mais je comprends que tout dépendant de notre vécu, notre bagage, ça peut paraître plus difficile pour d'autres. Moi, je pense que quelqu'un d'autre, une autre personne à la diversité peut également accéder à ce poste-là. Par contre, je pense que tout dépendant de leur bagage, des gens pensent que ça peut être plus difficile pour eux, tout dépendant de leur vécu. Je pense que c'est ça. Puis, je trouve ça très, très dommage. Mais pourquoi je trouve ça une non-nouvelle? Parce que je pense qu'une ville comme Montréal, ça devrait. Je suis bien content d'être le premier, là. Mais une ville comme Montréal, ça devrait pas être une nouvelle, dans le sens que ça devrait.
Ça devrait pas être choquant. Ça devrait pas être genre, oh mon Dieu.
Non, absolument pas. Ça devrait être normal parce que c'est Montréal, là. Donc, mais c'est ça.
Absolument. Puis, ah oui. Oui, pardon, Dalia, vas-y.
Pardon, excuse-moi, je voulais juste ajouter que. Désolée, c'est juste vraiment inspirant. Comme c'est vrai que vous dites que vous êtes la première bâtonnière de couleur, mais ça nous donne genre un espoir comme pour le futur, quelqu'un qui nous ressemble un peu plus. Donc, j'aimerais juste souligner les félicitations encore pour votre rôle, puis juste continuer d'être à l'inspiration dans la communauté, parce que c'est
Mais
important de
merci
penser
beaucoup,
de penser.
Dalia. Mais moi, ce que je dirais aux jeunes, s'ils sont. Moi, je dirais, c'est que je crois que les jeunes, en général, sont très ouverts d'esprit. Moi, ce que j'ai remarqué, les jeunes sont très ouverts. Je sais pas pour vous, c'est quoi le vécu que vous avez. Ils sont très ouverts d'esprit et moi, j'encouragerais les gens à toujours aspirer. Je comprends que ça peut être difficile de se voir dans un poste quand qu'il n'y a pas eu. Qu'on n'a jamais eu de personne qui nous ressemble. Je peux le comprendre. Par contre, je pense qu'on doit aller au-delà de cette situation et de se dire, moi, je suis partie de la société, j'étudie ici, je contribue aux impôts ici, peu importe, là, j'ai le droit au même privilège que tout le monde.
J'ai
Il n'y a
ma
pas
place.
de ma place, j'ai le droit au même privilège que tout le monde, puis je vais tenter ma chance tant que je réussis pas. Tant que je réussis pas. J'arrêterai pas tant que je réussis pas. Je pense que c'est ça qu'on doit se dire. Puis les gens vont finir par réussir parce que ça me surprend pas parce que moi je considère pas que je suis la personne avec le plus intelligent, avec le plus de talent. Je suis juste motivé, puis j'ai du plaisir, puis ça fonctionne. Mais par contre, je suis persévérant. Donc, je disais à personne, si vous pensez que tel poste, vous le méritez, mais appliquez. Présentez-vous et faites ce qu'il y a à faire, puis vous allez réussir. Si j'ai réussi, là, moi je pense que tout le monde peut réussir. Personnellement.
Mais je pense que c'est vraiment une très très bonne façon de voir les choses justement, puis toute l'importance un peu de la représentativité, tout le poids symbolique que ça peut avoir. Puis justement, si on parle encore de l'importance de la représentativité au sein de la profession, vous parliez aussi pas juste au sein des avocats, mais également la magistrature. Puis parfois, on voit qu'il peut y avoir une difficulté pour certains juges, peut-être d'appréhender, de comprendre la réalité des victimes de profilage racial, et même en ce qui a trait à reconnaître la preuve de profilage racial en elle-même. Donc, est-ce que vous auriez peut-être des pistes de solutions? Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire d'avoir plus de diversité au sein de la magistrature, de former les juges en conséquence de nos réalités sociales, de faire les deux en même temps? Donc, qu'est-ce que vous pensez de ça?
Personnellement, moi, je pense que les deux en même temps, vraiment, là, je trouve que c'est une bonne idée. Surtout la diversité de la magistrature. Parce que je crois que faut avoir une magistrature représentative de la société dans laquelle on vit. Parce que je pense que c'est vraiment important, parce que les gens, en tant que tels, entre eux, ils discutent. Bien entendu, si on a des collègues qui sont sur la diversité, je suis pas mal certain que ça risque d'avoir des conversations différentes. Et peut-être leurs points de vue peuvent être différents également. Donc, moi, je pense qu'il faut absolument avoir une magistrature plus diversifiée, parce que je pense que c'est important que la population, juste pour le respect des décisions, je pense que c'est important que la population puisse comprendre, pouvoir que les gens qui sont de la société puissent voir qu'ils peuvent accéder à ces postes-là. Et je pense que ça va juste aider au fait qu'on accepte mieux les décisions qui sont rendues, parce qu'on va plus avoir confiance. C'est aussi simple que ça. Je ne pense pas à la diversité pour la diversité, mais je pense que c'est important pour ce facteur de cohésion sociale, à mon avis. C'est vraiment important d'avoir cohésion sociale et aussi d'intégration. Je pense que c'est vraiment important d'avoir la diversité dans la magistrature. Je pense que même la magistrature reconnaît qu'il manque de diversité. La Cour du Québec, la Cour supérieure, je pense qu'on reconnaît qu'il manque de diversité. Par contre, je pense qu'on doit travailler pour que des gens issus de la diversité puissent pouvoir accéder à ces postes-là. Je ne sais pas exactement comment, mais je vous dirais que j'ose croire qu'on va trouver... Peut-être que les gens issus de la diversité pensent qu'ils n'ont pas le profil nécessaire. Ils ne peuvent pas appliquer à cause de telle raison. On veut des gens qui sont intelligents et qui sont bons en droit, qui sont capables de raisonner, comme juge. Donc, c'est le seul critère, et comme ça, on devrait... Il faudrait une façon de faire en sorte que les gens de la société puissent dire que, bon, on pense qu'on peut quand même accéder à la magistrature. D'après ce que je comprends, il y a peu de gens de la diversité qui appliquent, d'après ce qu'on entend de la magistrature. Ben, je pense qu'un de nos rôles comme avocat, comme bâtonnier, c'est de militer pour inciter les gens de la diversité à appliquer la magistrature. Pour ce qui est de l'enseignement, bien entendu, je pense que plus qu'on apprend, mieux que c'est, dans le sens que c'est plus qu'on apprend, parce que quand on rencontre des gens, par exemple, quand on rencontre des gens qui viennent d'horizons divers, bien entendu, je pense que si on connaît plus, si on connaît plus un peu leur background, si on connaît plus un peu comment ils vivent, si on peut plus avoir de la formation pour mieux comprendre ces gens-là, c'est mieux pour tout le monde, à mon avis. Donc, bien entendu, s'il peut y avoir plus de formation pour aider les juges dans ce domaine-là, je vraiment pas.
Puis, vous mentionnez aussi que, justement, le barreau de Montréal a une voix, puis le barreau de Montréal peut se positionner sur certaines questions. Est-ce que vous pensez que, par exemple, les questions de représentativité au sein de la profession et au sein de la magistrature, est-ce que vous pensez que c'est des choses que le barreau de Montréal pourrait se prononcer là-dessus, ou est-ce que ça sort un peu du cadre que vous recherchez?
C'est quoi les deux sujets? J'ai mal compris.
La représentativité au sein de la profession juridique, mais aussi au sein de la magistrature.
Bien entendu, pour ce qui est de la représentation, la représentativité sur la magistrature, je ne pense pas qu'on a besoin de prendre possible. Parce qu'à fond, les juges le reconnaissent. La question de savoir, une fois que la magistrature le reconnaisse, comment on fait pour qu'il y en ait, pour qu'il y en ait plus. Je pense que c'est plus ça l'enjeu. Pour ce qui est de la représentativité, bien entendu, nous, ce qu'on regarde dans Montréal, on regarde les sujets d'actualité, on voit comment on peut, par exemple, une prise de position, on prend position qu'on pense que ça peut faire, qu'on peut faire évoluer le débat. Par contre, moi, ce que je regarde, c'est, j'ose croire que cette année, on va pouvoir mettre certains chantiers en branle, certains chantiers en marche pour surtout la représentativité de la profession. Je pense que c'est important parce que si on regarde les cohortes d'étudiants qui arrivent, ils sont très diversifiés. Je fais des augmentations. Il faut s'assurer que les gens se sentent bien, se sentent accueillis, se sentent qu'ils sont à leur place. Prendre position, je ne sais pas, mais par contre, je pense qu'on est plus rendu à l'étape des actions pour ces deux sujets-là. Parce que prendre position, c'est écrire une communauté, dire on est pour ça, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la majorité, comment on fait pour essayer d'aider à la diversifier et aussi pour ce qui est de la représentativité? Qu'est-ce qu'on fait pour essayer de faire en sorte que ce soit plus diversifié et que les gens se sentent bien accueillis?
Mm-hmm, absolument. Donc, on serait plus dans une étape de voir quelle action concrète aurait un impact
ouais, effectivement,
sur ça.
Puis, il y a des gens qui travaillent on travaille en ce sens. Je sais que le Barreau du Québec travaille en ce sens sur certains sujets d'université. Je sais qu'il y a des groupes, l'Association des avocats noirs, Division Québec, travaille sur ça. Fait que dans le fond, je pense que faut juste aligner nos flûtes, là. Je pense qu'on voit tous qu'il y a une certaine problématique.
Absolument. Puis, si on peut terminer un peu sur une note un petit peu plus positive, vous avez mentionné dans une entrevue, j'ouvre les guillemets, « Je souhaite que les jeunes de la diversité qui veulent devenir avocats comprennent qu'il y ait un espace pour eux. » Fermer les guillemets. Donc, c'est ça, vous avez mentionné ça à quelques reprises. Puis, Dalia aussi, tu as mentionné justement l'importance symbolique de la représentativité. Donc, comme vous êtes très impliqué dans votre milieu, est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement de l'impact que l'implication a pour tous les jeunes étudiants en droit, les jeunes avocats qui veulent s'impliquer? Donc, de manière générale, à quel point c'est important, puis à quel point c'est nécessaire même de s'impliquer dans son milieu?
Moi, je trouve que je suis l'exemple parfait, honnêtement, là, pour vous, là, je suis l'exemple parfait parce que je le dis à chaque assermentation, parce que quand à Montréal, quand les nouveaux avocats sont assermentés, sont terminés leur stage, je préside, donc je participe à la cérémonie de l'assermentation, je leur dis toujours de s'impliquer au barreau. Je suis l'exemple parfait. Pourquoi? Si je suis devenu président jeune barreau et bâtonnier, c'est uniquement à cause que je me suis impliqué. Rien d'autre. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé, l'objectif au début, c'est d'avoir des amis, parce que je n'étais pas de Montréal. Puis ça a mené à ça aujourd'hui. L'implication est vraiment importante parce que moi, j'ai beaucoup d'amis que j'ai fait au jeune barreau qui sont encore de très, très bons amis. Je me suis trouvé des très, très bons amis. Et deux, j'ai senti qu'en m'impliquant, je peux faire une différence. Par exemple, que ce soit au Jeune Barreau, que ce soit au Barreau de Montréal, j'ai senti que mes opinions étaient prises en compte et que je pouvais faire une différence dans les organisations dans lesquelles je m'impliquais. Ça peut être même à Éducalo également dans lequel je m'implique présentement. Donc, vraiment, l'implication, je pense, je dirais aux gens, je comprends que quand on commence la pratique, c'est important de pouvoir travailler fort, soit apprendre notre métier. C'est vraiment important. Il ne faut jamais oublier aussi de pouvoir toujours faire en sorte d'avoir un très bon réseau de contacts. Et une des façons d'avoir un bon réseau de contacts, c'est de s'impliquer dans des organisations. Parce que quand on est autour de la table, on est dans une communauté de jeunes barreaux dormants avec des gens autour de la table. Mais ces gens-là, on va les revoir après. Ils vont devenir soit des collègues. Si on cherche un emploi un jour, on va dire « Hey, je cherche un emploi. » Ces gens-là vont pouvoir nous aider. Si on a notre propre pratique, on cherche des personnes qui travaillent avec nous, ces gens vont nous aider. Donc, on se retrouve à vraiment se créer un cercle autour de nous qui va vraiment nous être utile pour la vie. Faites pas ça. Faites pas ça parce que ça va être utile. Faites ça parce que, un, ça vous intéresse, mais je vous dis ça va être utile. Mais je dirais, impliquez-vous dans un domaine qui vous intéresse. Moi, je l'ai fait aux jeunes barreaux puis aux barreaux parce que c'est intéressant. Si vous aimez les affaires, impliquez-vous dans un organisme de semaine. Si vous aimez l'art, faites ça. Dans le sens que, par contre, je vous dis juste aux gens, impliquez-vous. C'est vraiment, vous allez voir que avec le temps, ça va vous être utile. vous allez écouter dans un organisme qui vous intéresse, et faites-le pas juste pour ça, vous allez voir qu'au bout du compte, ça va être utile, ça va vous aider, ça va vous aider. C'est vraiment utile.
Mm-hmm. Oui, absolument. Ouais. Puis ça va vous aider aussi à marquer positivement votre communauté, puis tout l'entourage. De manière générale, parfois, tu sais, on va s'engager pour s'engager, mais après, on voit pas justement tout l'effet positif qu'on peut avoir sur les autres, qu'on peut avoir sur notre communauté.
Ouais, effectivement.
C'est vraiment positif. Ouais. Mais je tiens à vous remercier, Maître Lagarde, d'avoir participé à cet épisode avec nous. Je tiens aussi à remercier nos partenaires, donc la Ville de Montréal, pour sa généreuse contribution. Et on rappelle que Touche pas à mes droits est un projet en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Je salue également ma co-animatrice Dahlia, Zenga de Neolabs, ainsi que la clinique juridique de Saint-Michel. Donc, merci à tous d'avoir participé. Ce fut vraiment une conversation enrichissante et au plaisir de vous revoir bientôt.
Mais j'aimerais, avant de finir, de vous remercier beaucoup à vous deux de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir de vous avoir rencontré. Félicitations, vous êtes vraiment très, très sharp. En passant, vous avez fait vos recherches.
Merci.
Vous êtes très sharp et félicitations pour votre beau travail. Écoutez, j'ai hâte de vous voir au Barreau Montréal parce que vous êtes des gens de Montréal.
Oui, ben oui.
Au Barreau Montréal un jour. Et j'ai hâte de vous voir dans la pratique. Puis si vous me voyez, faites-moi coucou, ça me fait plaisir de vous parler. Je suis pas très snob, là.
Parfait.
Très approchable. Mais félicitations et bonne fin de session. Bon début de session.
Merci infiniment.
Présenté par la Clinique juridique de Saint-Michel,
en collaboration avec le Forum jeunesse de Saint-Michel,
Neolabs, la Ville de Montréal,
et en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale.
C'est carité. Les vibrations de la communauté, CKUT FM 90.3.
À qui les donner? À nous les donner!
Lorsqu'on ne paye pas pour un produit, on est le produit. Particulièrement dans le cas de l'hébergement des courriels et des sites web où les compagnies multinationales se battent pour les profits produits par les magnifiques communications de vos organisations. Kumbit est une coopérative de travail qui essaye d'aider les petites organisations ou les particuliers à se réapproprier leurs communications par l'hébergement de courriels et de sites web ainsi que par la création de sites web. Si c'est votre désir, contactez-nous à kumbit.org. ou par courriel à info@kumbit.org, KOUMBIT.org. On n'est pas sur Facebook.
Le Prison Radio Show est une émission radio avec des nouvelles pour les prisonnières et leurs alliés et familles. L'émission cherche à confronter l'invisibilité des prisons et la lutte des prisonnières en se concentrant sur les racines de l'incarcération, de la police et de la criminalisation. Nous sommes dédiés à des programmes qui collaborent directement avec des personnes actuellement incarcérées. Dans cet esprit, nous aimerions vous faire savoir qu'on a une ligne téléphonique pour les prisonnières et leurs amis et familles. Vous pouvez nous appeler Collect de la prison de Bordeaux et de la prison Rivière-des-Prairies en composant le numéro 514-876-3748. Encore une fois, c'est 514-876-3748 pour les appels Collect. On a aussi un numéro normal qui est 438-337-8423. N'hésitez pas à appeler ce numéro et à nous laisser un message avec des nouvelles à partager sur l'émission ou un message audio pour vos proches à l'intérieur.
we were to go by stats, prison is a gold mine camp with no buybacks. Nigga, it's a wizard in the system holding all my blacks. It started in 1640, shackles around my ankles. Melanin meant that I can't go to schools or read, cause who's gonna serve my master? Also, the pastor described all my people as the sheep who exist to upkeep the land. We feed the economy, creep all the crops, but then feed on it modestly, consciously knowing you're lesser than. And lighter skin means that you're better now. So you in the house taking whips and probably dick, cause well, you a fetish now. Meanwhile, I'm grateful for all that I'm given. I'm picking this cotton in rhythm. I pray for a lot of the living. Escaping is probably a sin, and if God ever finds out that I want my freedom, well damn, then God's gonna call in the wrath. Two horses with opposite maps. Those nooses, they up in the trees and I'm hanging, but I never fall like my pants. Then came the 13th Amendment, written in 1865. It says slavery is over, acceptance, pay for doing crime. And then the things that they made illegal are things you associate with people who now education isn't equal, and they getting paid enough to eat, so we stealing and jugging and shit. We need to be fully equipped. The system the new slave master brought in to stop us and bullying shit. Cause before we were stealing and jugging, the laws we was breaking was loitering. We go to the bend and we can't pay the fine. Now the jail is who your employer is. This voyage is super intentional. You used to be students in medical. The Moors and indigenous blacks were the smartest and honestly truest professionals, literally teaching you about chemicals. My history isn't viewed on a pedestal. Try to tell me only few of my ancestors had anything to offer. If we wasn't strong, you would never bother. If we wasn't awesome, you never put all of your resources in just to get to conquer. If we ain't a problem, then why would you want all the youngins who black not to have a father? Cause slavery showed black youth for mad years that whiteness is right. Your ma getting fucked, your dad getting whipped, but white is the light. And sometimes master blesses you for being a good slave and kills you off if you a bad one. So black mothers tell their daughters fuck the master, and they tell their sons they can't run. Mama raised the girls independent, and she raised the boys out of fear. These days black women representing the struggle that these black boys trying to clear. Man, we have so much work to do.
CKUT 90.3 FM, Montreal. Thank you.
FM band is from 88 megahertz up to 108.
We've got this frequency. We're going to call you CKUT. We've got this frequency, 98.3. That frequency is what you're picking up when you tune that radio.
Very impressive.
You can sit on the moon and it looks like they pick up CKUT and clear as a bell.
Fascinating. Your analysis seems logical.
CKUT is on the air.
Time to make an appointment for your booster dose against COVID-19. Visit quebec.ca/COVID-vaccine to follow the vaccination sequence plan for your area and book your appointment online. To continue protecting yourself against COVID-19 and its variants, get a booster dose and keep following distancing measures, wearing a mask, and washing your hands. The booster dose, the best way to stay protected longer. A message from the gouvernement du Québec.
The following is a previously broadcast program.
Welcome to Queer Core on CKUT 90.3 FM. Montreal's only queer culture show that bridges any divide between queer sex and radical queer politics. Due to the fabulous nature of queer experience, tonight's program may contain sexually